Yeah.
Antoine de Saint-Exupéry disait « Les étoiles sont éclairées pour que chacun puisse un jour retrouver la sienne. » Moi c'est Alex, et sur Double Dose, je vous invite à la rencontre de personnalités, entrepreneurs et sportifs, qui vont vous inspirer à entreprendre les projets qui vous tiennent à cœur. Derrière les succès, les réussites et les échecs, il y a avant tout des hommes et des femmes que j'avais envie de vous présenter sous toutes leurs facettes. Bienvenue sur Double Dose. Bienvenue sur votre podcast. Mon invité du jour, voilà, est fasciné par la tablette avec tous ses boutons, est fasciné par le micro face auquel elle se retrouve. Pourtant, tu te retrouves souvent en ce moment face à des micros en français, en anglais. Je crois que tu parles 4 langues même d'ailleurs. Je me suis longtemps posé la question, je me dis, est-ce qu'on fait l'interview en anglais? Est-ce qu'on le fait dans une autre langue? Est-ce qu'on le fait en espagnol? Pourquoi pas? Et j'ai longuement hésité, je me suis dit, on va rester sur le français, ça va être bien plus simple et on pourra dire beaucoup plus de choses. Comment ça va, Tania?
Très bien, merci. Merci de m'avoir ici aujourd'hui.
Comme tous nos invités, je vais te laisser déjà te présenter, qu'on sache un petit peu qui tu es et savoir à quelle sauce tu vas te manger.
Très bien. Alors, bonjour. Je suis Tania Bencheva-Vigier. J'ai 34 ans. Je suis bulgare à la base et je suis partie quand j'avais 18 ans à faire mes études en Angleterre et aux États-Unis. Puis j'étais consultante en stratégie à Londres, un peu un parcours typique, comment dire. J'ai eu la chance, disons, de rencontrer mon mari à Londres qui est français. Et donc c'est ça qui m'a emmenée en France il y a 7 ans, sans parler un mot du français. Donc c'était pas du tout planifié, mais la vie elle est surprenante des fois. Et voilà, aujourd'hui, je suis la fondatrice de Native Spaces, une start-up tech qui est basée à Nice. Nous avons une équipe de 15 personnes de 6 nationalités différentes. Donc, on parle beaucoup de langues chez nous, chez Native Spaces. Et voilà.
Parcours typique, parcours atypique aussi, en fait, un petit peu des deux.
J'ai manqué une détail très importante. Ouais. Je suis maman aussi, j'ai un fils de 3 ans et demi, ah. Et qui, bien sûr, un détail qui prend une grande partie de ma vie. Donc
Ça, c'est un temps voilà. Plein aussi, être maman.
Oui, oui, absolument. J'ai plein de temps plein avec mon temps.
Donc, une femme, une maman, une entrepreneure multicasquette. Et on va commencer par revenir sur ton enfance. Tu as quels souvenirs de ton enfance en Bulgarie et quels sont les types de souvenirs que tu as de cette enfance?
Alors, j'ai beaucoup de souvenirs, bien évidemment. La neige en hiver, l'été très long et chaud. J'avais une enfance très sympa. J'étais très chargée. À part l'école, je faisais des cours de danse, des cours de violon, plein d'autres activités. J'avais beaucoup d'énergie, mais aussi une mère très énergétique et ambitieuse. Okay. Il fallait noter tout ce que je faisais heure par heure. Il fallait absolument pas perdre une minute.
Wow.
Voilà, il faut le temps compter. Donc, il fallait faire quelque chose avec ma vie, disons.
Et parce que tu n'avais pas le temps de t'ennuyer, tes parents ne voulaient pas que tu t'ennuies, ou c'est juste parce qu'ils voulaient que tu sois le plus efficace possible?
Je pense qu'il y a une côté exigeante qui est due du fait que quand je suis née, moi je suis née en 89, c'était le début de la transition, le pays était assez pauvre, ma famille inclus, et mes parents, même avec plusieurs diplômes d'ingénieur, ils avaient à travailler très dur pour construire quelque chose, et donc je pense qu'il y avait ça d'un côté qui faisait qu'il fallait absolument que moi et ma sœur en soient très comment dire, bien occupées, très ambitieuse, etc. Et moi aussi, peut-être, c'est ça qui m'a donné aussi envie d'être très indépendante très vite. Donc, je cherchais du travail assez tôt. J'ai commencé peut-être quand j'avais 14 ans. J'avais du travail de l'été pour ne pas rester à la maison.
On bosse où quand on a 14 ans?
Alors, j'ai fait tout. j'ai travaillé dans des boutiques. J'ai travaillé aussi en en tant qu'animatrice dans des hôtels de luxe, animatrice pour les enfants.
Un peu comme
le Club Med en France.
T'étais un géo, ce qu'on appelle le gentil organisateur du Club Med.
C'est ça, qui danse devant tout le monde, qui ramène les gens à faire du sport, qui s'occupe des enfants, voilà. Exactement, voilà. Je cherchais des petits boulots à droite, à gauche. C'était hyper important pour moi d'avoir cette indépendance. Et j'ai dansé beaucoup, beaucoup, puisque c'était ma passion.
Ah, mais justement, en parler de la danse, moi, tu sais que géo au Club Med, ça aurait été un de mes rêves. Franchement, faire danser des personnes toute la journée, j'aurais été tellement bien, tu vois. Et je l'ai fait même sur une tournée d'été. J'ai bossé pour Lipton, voilà, c'est une marque de une boisson. Et on offrait des Lipton tout sur la plage, toute la côte landaise. Et en même temps, on dansait avec le DJ, on les ambiançait et on offrait des goodies. C'est un des meilleurs jobs que j'ai fait de ma vie, vraiment, vraiment.
Bah, ce qui est bien ici, c'est qu'il fait un peu moins chaud, puisque en Bulgarie, l'été, il fait très, très chaud. Donc, des fois, ça peut être oui, oui. Mais voilà, je lidais même les... Ça s'appelle comment en français? Les bar tours. En fait, des groupes de jeunes qui vont visiter plusieurs bars, etc.
Et barathon, même, on appelle ça. Voilà. La danse, tu as commencé à en parler, c'est vraiment une de tes premières passions fortes. C'est ce qui t'a animé, je crois que tu as commencé, tu avais 5 ans, 4-5 ans.
C'était exactement ça, j'avais 5 ans quand j'ai commencé. C'était ma grande passion et c'est une passion même aujourd'hui. C'est juste le mix de la musique, du mouvement, des émotions. Ça fait qu'on est très très présent dans l'instant présent. La danse pour moi c'était beaucoup plus que juste un sport, c'était les compétitions, la vie sociale, l'indépendance justement, puisque je partais pour les compétitions tous les week-ends. D'accord, sans parents, ouais. Voilà, c'était très sympa. Aussi le partenariat, puisque les danses des salons et danses latines, on danse en couple. Donc j'ai dû apprendre très tôt à dépendre de quelqu'un d'autre.
Et justement, toi qui avais cette éducation où on te poussait à faire toujours plus, toujours plus, toujours plus, est-ce que ça te mettait pas aussi la pression de te dire il faut que ton partenaire soit aussi bon que toi tout le temps, tout le temps, tout le temps?
Oui, mais on apprend très vite qu'on ne peut pas tout contrôler. Voilà, et surtout pas les gens. Donc il faut faire avec, il faut les motiver autrement. Et surtout, j'adorais les compétitions. C'était quelque chose qui m'a beaucoup appris, qui m'a préparé pas mal pour la vie entrepreneuriale. Je ne me rendais pas compte avant, bien sûr. Mais maintenant que je suis face à cette vie entrepreneuriale, je retrouve beaucoup des sensations que j'ai eues quand j'étais danseuse.
À haut niveau, finalement. Enfin, tu étais danseuse à haut niveau.
Oui,
on peut le dire.
On peut dire ça.
Mais j'ai beaucoup d'entrepreneurs, tu vois, qui me disent la comparaison entre le sport et l'entrepreneuriat, forcément. On en parlait avec Moussa Camara. Déterminé, lui il court énormément tous les matins, tous les soirs, tous les après-midi dès qu'il a le temps. Je lui disais moi aussi je cours beaucoup, il me fait en fait c'est bon, t'es un entrepreneur, tu l'as dans l'âme. Tous les gens qui adorent courir, faire du sport sont en quelque sorte des entrepreneurs et c'est pour ça qu'on en reçoit aussi sur le podcast. Tu vois Hugues Fabrice Zango qui est passé il y a quelques temps, qui est champion du monde du triple saut, et pareil c'est un entrepreneur, c'est une mentalité, une façon de travailler, une rigueur, une discipline, un peu comme tu l'avais déjà étant petite. Et toi, tu as continué à grandir. La danse, tu as continué en Angleterre et aux États-Unis?
Oui, absolument, j'ai continué. C'est difficile à se séparer de la danse. Une fois que tu es danseur, c'est un peu comme un état d'esprit. Disons que...
C'est une religion, la danse.
C'est ça, c'est la religion. On ne change pas, même quand on ne pratique pas, on est toujours un danseur. Si on est danseur, on est danseur. C'est un peu... Et c'est un peu comme les sportifs de haut niveau. Je pense qu'ils se définissent avec ça d'un côté. Et c'est une base incroyable et surtout ça t'apprend de perdre en permanence et de reprendre, voilà, de ne pas de résister, persister, de continuer et de viser haut. Nos coachs, ils nous disaient que il faut, quand on va en compétition, il faut toujours cibler, viser la première place. Même si on sait qu'on n'a même pas le niveau pour le final, il faut viser la première place et on sera en finale.
T'es partie en Angleterre la première fois quand t'as quitté la Bulgarie, c'était pour faire quel type d'études?
J'ai fait mes études en école de commerce, à Warwick Business School, c'est au milieu de l'Angleterre. Et j'ai fait aussi une année à Cornell aux États-Unis, très sympa, il y a beaucoup de neige, un hiver très long.
C'est vers où ça?
Alors ça, c'est vers Ithaca, Niagara Falls, je ne sais pas si tu connais, vers le Canada.
Okay.
New York State, bon, au nord du New York
D'accord,
State.
Oui, parce qu'à chaque fois, tu me cites des villes qui sont de moins en moins connues. Donc voilà, je vois, tu vois,
Buffalo. Au nord du New York State, okay. C'est vraiment magnifique. Il y a des gorges, un hiver très long avec beaucoup de neige, beaucoup de classes. Non, mais très, très sympa. C'est une université, c'est une université à Ivy League avec une grande histoire. C'est magnifique.
Et ça t'a apporté quoi, cette expérience à l'étranger durant tes études? Est-ce que ça t'a permis... Enfin, on sait que t'étais déjà un cursus assez international, mais le fait d'aller vraiment à l'international, qu'est-ce que ça t'a apporté?
Alors, le fait de changer tout le temps et d'être en permanence avec des gens qui sont encore plus impressionnants, encore plus intelligents, qui visent encore plus haut, à chaque fois il fallait me prouver à moi-même que je mérite d'être parmi ces gens-là. C'était aussi le cas quand j'étais consultante en stratégie à Londres. C'était ouais. très compétitif et le groupe il était très brillant, donc ça m'a fait à chaque fois j'avais un peu le syndrome d'imposteur, il fallait me le prouver, voilà, mais à chaque fois c'était très stimulant.
Que pourtant t'étais quelqu'un de... je te connaissais pas, je vais pas dire hyper talentueux, mais t'étais quelqu'un qui avait envie et qui avançait, et même là tu te sentais imposteur.
Oui, puisque tout le monde était très impressionnant à chaque fois. C'est quand on grandit dans une petite ville, on a l'habitude d'être le meilleur dans notre classe, le meilleur partout, etc. Et c'est impressionnant quand on est parmi des gens avec différentes expériences, qui ont beaucoup vécu aussi, qui sont très intelligents, qui font beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Et c'était à chaque fois un challenge pour moi, justement, pour prouver que je mérite justement d'être parmi eux. Mais aussi, ces expériences m'ont appris de m'adapter très vite, de m'intéresser à plein de choses, d'adorer la diversité. C'était vraiment... en arrivant en France, c'est ça qui a fait que je me suis très vite adaptée et que je pense que j'ai eu un peu le courage de lancer quelque chose, mais même si je ne parlais pas français.
Bah alors justement, parlons-en. Juste avant, toi vraiment de Bulgarie, t'es issu d'un petit village en Bulgarie?
Ce n'est pas un petit village. Pour la Bulgarie, non. C'est une grande ville. Elle a 150 000 habitants, mais la Bulgarie, c'est un petit pays de 6 millions d'habitants. Donc la Bulgarie est limite plus petite que Paris en termes d'habitants.
Ouais. Voilà, Roussay, Cornell, Warwick et désormais Nice, sans oublier Londres où elle a été consultante en stratégie. Oui, bon, ok, je fais une petite aparté dans ce podcast et je vous raconte ce petit bout d'histoire parce qu'il y a des travaux juste à côté de la salle d'enregistrement et donc le son n'était pas optimal à ce moment-là. Donc on va faire ensemble une petite avancée dans le temps. Je vous disais, Londres, ça a été un véritable tremplin pour Tania. Elle voyageait beaucoup, elle se fait un réseau international, elle apprend à travailler dur, à ne pas avoir peur à parler aux exécutifs dans les grands groupes. Et puis Londres, c'est aussi l'histoire d'une rencontre. Elle y rencontre son futur mari qui, 2 semaines plus tard, part à Nice, monte une start-up. Et après 2 ans de relation à distance, Tania fait le grand saut et débarque à Nice. Actuellement, tu parles français, on a l'impression que c'est facile. À l'époque, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, allez, je tente? Ou tu dis, est-ce que j'ai le courage de le faire? Et qu'est-ce qui se passait dans ta tête de dire, je vais tout plaquer pour un pays pour lequel je sais à peine dire bonjour, je veux une baguette? Tu vois, c'est...
Oui, alors... Comme tu l'as déjà compris, j'aime bien le challenge. Ça fait partie de ma vie un peu. C'était quelque chose qui m'arrivait à plusieurs reprises dans ma vie. Mais je pense que la partie la plus dure d'arriver comme ça sans parler à mon, c'est un peu gérer son ego. Puisque à ce moment-là, on a déjà une certaine expérience derrière nous, on a une certaine, certaine envie d'être vu d'une façon ou autre, et on sait qu'on est jugé, sur la manière dont on communique. Mais je me suis dit, j'ai étudié beaucoup de langues, et donc je me suis dit, ça serait pas si dur, en 2 ans, je vais parler couramment. Alors c'était plus difficile le français que je pensais.
Le français, c'est pas hyper drôle.
C'était plus difficile, surtout la prononciation pour moi, comme tu l'entends. Hein, j'ai un énorme accent, alors que je n'ai pas un accent d'Europe d'Est en anglais.
Okay.
Puisque l'anglais, je parle depuis que j'étais petite, le français, c'est sûr que j'imagine que je vais avoir l'accent toujours et que mon fils, il va se moquer de moi, mais ce n'est pas grave.
Tu sais qu'à Toulouse, il y a des gens qui ont l'accent ici en France, donc ça va.
Ah oui.
Tu vois, ça change pas beaucoup. Mais c'est vrai que c'est assez marrant ce que tu dis, cette question d'ego, parce que tu sors de Londres forcément où tu as bien roulé ta bosse dans le monde du travail, tu discutais avec des dirigeants constamment, et là tu te retrouves entre guillemets avec le niveau d'un enfant de 5 ans qui parle en France, tu vois. Oui. Donc c'est vrai que niveau ego, tu te dis ok, on va repartir de zéro, et t'as continué à avancer, progresser, et ton français est franchement très bon pour faire une heure d'interview, parce que là on est parti pour une heure et demie, tu vois. Donc la France et Native Spaces, on va commencer à y venir, c'est une histoire liée à un mariage, je crois.
Oui, et c'est lié à quelque chose en fait qui sont arrivés un peu en même temps. Et moi, depuis un moment, j'étais très intéressée du secteur du tourisme, d'hôtellerie. J'avais un gros projet à Londres. Quand j'étais déjà arrivée en France, je continuais d'avoir des projets à Londres, donc à mon propre compte. Donc je me déplaçais, c'était avec une grosse chaîne d'hôtels de luxe qui s'appelait le Dorchester Collection. Et donc j'ai développé cet intérêt. Et en arrivant à Nice, ce qui m'a vraiment interpellée, c'était le fait que tout était fermé, donc des belles maisons, des appartements avec une vue incroyable qui étaient les volets fermés, mais la plupart du temps, puisque je suis arrivée en novembre 2016 et ils étaient fermés alors que dehors il faisait 15 degrés, il fait 15 degrés en hiver à Nice.
C'est pas mal, c'est
donc,
pas mal.
Donc je me suis un peu demandé comment on pourrait les rendre rentables pour leurs propriétaires, mais aussi ouvrir leurs portes pour voir ce qui est dedans, pour en profiter. Et à cette époque-là, j'étais en train aussi de planifier mon mariage. Je me suis rendu compte que déjà avoir accès à des lieux hors du commun, c'était compliqué. Donc les trouver et avoir accès, c'était compliqué. Au-delà de ça, juste toute l'organisation était très complexe. Il fallait faire beaucoup de recherches, il fallait attendre des semaines pour les devis. Après, il fallait faire confiance à des prestataires qu'on ne connaît pas, faire des paiements, chacun son propre moyen de paiement. C'était vraiment pas évident. Et là, je me suis rendu compte à quel point le secteur événementiel était encore sans être méchante, mais pas si digitalisé comme le secteur de hôtellerie et tourisme ou travel. Justement, aujourd'hui, on peut planifier un voyage en quelques clics, alors que les événements, c'est toujours assez réservé aux professionnels puisque c'est très complexe. Et ça ne devrait pas être complexe.
Parce que toi, tu l'avais vu justement à l'étranger des manières plus simples, ou c'est en France, tu ne l'as pas constaté, ou c'est de manière générale
Je ne l'ai pas vu. En fait, avant ça, j'avais pas forcément organisé beaucoup d'événements. Juste peut-être quelques événements quand j'étais à Londres. Et à chaque fois, c'était dans la salle d'Hilton ou des lieux très...
Oui, c'était déjà facile, entre guillemets, à faire.
Mais qui ne sont pas du tout intéressants, qui ne rendent pas du tout l'événement, mémorable.
Attends, je te rajoute juste le micro, parce que là...
Voilà, donc je me rendais compte que les gens, ils vont prendre des lieux standards juste pour que ce soit simple. Donc, même s'ils aimeraient bien créer quelque chose, une expérience plus intéressante pour leurs invités ou un moment mémorable, justement, ils n'y allaient pas, ils ne se lançaient pas, puisque c'était trop complexe à organiser. Et il n'y a pas de raison, parce que célébrer, c'est très important. Il faut que ce soit facile, il faut qu'on marque les moments importants. Donc, c'est comme ça que Native Spaces est né. Et à l'époque aussi, j'étais invitée pour un dîner secret à Nice. C'était organisé dans un magasin de fleuristes.
Attends, le dis pas si c'est encore secret.
Non, c'est... Ça y est. Alors, c'était dans un magasin de fleuristes et c'est là où je me suis dit, incroyable. Donc, le fleuriste, il monétise son magasin le soir quand il n'est pas utilisé.
Ouais.
Pour nous, en tant qu'invités, c'était très beau. Vraiment un moment que je n'ai toujours pas oublié. Et je me suis dit, il faut trouver un moyen de matcher ces deux mondes, le monde événementiel résidentiel et le monde des locations, le monde des espaces sous-utilisés.
C'est vrai qu'on oublie parfois que l'événementiel est là quand même pour créer un moment qui va rester et qui va marquer. Et c'est pour ça qu'il y a des lieux qui sont assez emblématiques. On en parlait tout à l'heure, le Madi Kenot, qui est au Palais Brongniart, qui est un lieu hyper emblématique et sur lequel tu y vas. Limite, tu as presque oublié ce que tu as entendu là-bas, mais tu sais que tu y as été. C'est un peu ça qui est intéressant aussi avec l'événementiel, c'est de se dire, on est là pour marquer des personnes, on est là pour marquer des gens, des histoires. Et donc vous, on vous considère, alors les médias vous appellent le Airbnb, c'est ça, de l'événementiel?
Oui, effectivement. Puisqu'il s'agit d'une plateforme marketplace, un peu comme un Airbnb pour les événements, et aussi puisque cela nous, la plateforme et les outils nous permettent justement de donner accès à des lieux, à des biens qui ne seront autrement pas sur le marché événementiel. Donc, ça serait les maisons privées, les appartements, les bateaux, les galeries d'art, justement, ouais. Les musées. C'est pour ça l'Airbnb pour les événements. Après, je t'avoue, c'est souvent les propriétaires qui nous appellent, ils vont nous dire mais moi j'aime pas Airbnb, est-ce que vous êtes différent? Donc et oui, ils aiment énormément le fait que c'est une entreprise française, que c'est local, qu'il y a une équipe derrière, qu'ils vont parler avec quelqu'un au téléphone, etc. Donc c'est aujourd'hui c'est vachement important.
Quand tu fais du service, l'humain c'est quand même hyper important. Et ça, vous le mettez en œuvre énormément dans votre quotidien?
Absolument. Aujourd'hui, on va parler peut-être avec 90% de non seulement donc avec 100% des hôtes et avec 90% des clients finaux, donc les organisateurs d'événements, pour justement les aider dans leur démarche, puisque l'événement ne s'arrête pas au lieu. Après, ouais. Il y a tout ce qui est les services de traiteurs, le DJ, l'animation, etc. Donc, c'est notre équipe qui va les aider dans toute leur démarche. Et au-delà de ça, il s'agit des moments très importants dans leur vie ou dans les vies de leur entreprise. Donc, il y a aussi le côté émotionnel qui fait partie de l'organisation d'un événement. Et donc, souvent, les clients, ils ont besoin de parler avec quelqu'un.
Et vous, vos clients, en majorité, ce sont des entreprises. Vous n'avez pas trop de particuliers qui passent par vous ?
Non, nous avons les deux. Aujourd'hui, c'est vraiment 50-50. Du côté particulier, il y a énormément des anniversaires. On a eu des anniversaires de 1 an jusqu'à 90 ans. on a des baptêmes, des mariages. Tu seras étonné de savoir combien de mariages s'organisent à la dernière minute. C'est,
ah ouais,
c'est incroyable, oui. Et après, du côté entreprise, oui, nous avons à la fois des entreprises locales et des entreprises internationales, puisque souvent nous sommes sollicités pour des événements qui s'organisent en annexe des congrès, des salons, des grands événements comme les JO par exemple. Donc c'est des entreprises plutôt internationales qui nous sollicitent pour ce type d'événements.
Justement, est-ce que le fait d'être étrangère, entre guillemets, tu penses pas que ça t'a pas aidé aussi dans les démarches, tu vois, de rencontrer les beaux espaces de réception?
Alors, c'est intéressant que tu dises ça, puisque oui, je pense oui, maintenant que je regarde. Mais aussi, ça a été un véritable challenge pour moi, une vraie épreuve de prendre le téléphone, téléphoner les gens et leur parler en français, alors qu'à l'époque, je ne parlais pas comme je parle maintenant.
Ouais.
Et aussi de vendre, puisque en tant que consultante, j'ai jamais eu à vendre quoi que ce soit.
Ouais.
En fait, à me vendre moi, à vendre mon projet, à vendre mon produit. C'est un travail. Pour moi, c'était vraiment sortir de ma zone de confort, à vendre et vendre dans une langue que je ne connaissais pas bien. Donc, ça, pour moi, c'était un véritable challenge. Et c'est vrai que peut-être ça a aidé le fait qu'il y a le côté international. Mais c'était plutôt un challenge. Et même aujourd'hui, je ne suis pas forcément tellement à l'aise, mais je suis contente de l'avoir fait. Mmh. Aujourd'hui, c'est mon équipe qui vend le produit, donc ça, c'est génial. Après, moi, je dois continuer à vendre, bien sûr, auprès des investisseurs, etc. Pas de choix, c'est comme ça. Mais voilà, c'était un challenge.
Oui, c'est encore le retour de la voix off sur cet épisode. Alors, lancer une boîte, ça prend du temps, surtout quand dans une journée, il n'y a que 24 heures. Et à ce moment-là, l'interview, j'ai posé une question à Tania et je lui ai dit, elle qui aimait aller vite depuis toute petite, comment a-t-elle vécu le fait que faire grandir une boîte, ça prend du temps? Voici sa réponse.
Je te mentirais si je dis que c'est facile. En fait, ce n'est pas facile puisque au début, c'est comme si on pousse un ballon vers le haut. Ouais. Et après, maintenant, le ballon il est en train de descendre tout seul. Ouais. Et on court après. Voilà, tout se passe très vite. Mais c'est vrai que ce qui est difficile, c'est de... En fait, les gens ne se rendent pas compte quand ils lisent les articles et qu'ils regardent des choses dans les médias. Ils ne se rendent pas compte. En fait, au début, ce n'est pas du tout évident que ce serait une bonne idée ou que ce serait un bon projet. En fait, souvent, on est dans le doute. En fait. Mm-hmm. Est-ce que je suis folle? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui croit dans ce projet? Et c'est sûr que quand il y a les premiers investisseurs qui arrivent ou les premiers membres de l'équipe, puisque les membres de l'équipe, quand la start-up est très jeune, c'est comme les premiers investisseurs, puisqu'ils prennent énormément de risques et ils sont super investis. Donc quand ils arrivent, c'est là où on a la première preuve qu'on n'est pas folle, qu'on n'est pas fou, ouais. qu'il y a quelqu'un d'autre qui croit vraiment dans ce projet, que ça va bien se passer. Mais c'est vrai qu'au début, ce n'est pas forcément super évident. Il faut juste résister. Moi, je suis quelqu'un de très, très positif. Donc, même des fois, les équipes, elles sont étonnées puisque, voilà, on a des hauts et des bas en permanence. C'est un vrai roller coaster. Des fois, on a des problèmes très inattendus, mais je suis capable de garder le positivisme. Ça fait partie un peu de mon état d'esprit. Donc, c'est ça qui a peut-être aidé à continuer, à persister.
Ce que tu racontes, je crois que... Alors, je l'ai vu en plus il y a deux jours sur TikTok, tu vois. C'est le biais de résultat. C'est-à-dire qu'en fait, on regarde 5 ans après en se disant « Ah ben c'est sûr, c'était une très bonne idée. »
Ouais, c'était évident.
À l'instant T, personne ne se dit « C'était une très bonne idée. » Et il y avait le principe qui disait, je crois que c'était quand tu joues au loto, toutes les personnes qui jouent au loto disent « Ah ben j'ai bien fait de jouer au loto. » Ah oui, ben bon, rien ne te prédestinait forcément à gagner au loto. Donc ce biais de résultat, il est assez intéressant. Et c'est vrai que tu le disais, c'est assez marrant quand on regarde les articles qui disent « Oui, c'est la fameuse bonne idée, elle a réussi, etc. » Mais c'est vrai que beaucoup de personnes ont cette complexité dans les débuts de se dire « Est-ce que ce sera vraiment, vraiment une bonne idée? Moi, j'y crois, mais est-ce que les autres y croiront aussi? » Et donc, c'est aller assez loin. Tu as commencé à parler argent un petit peu. À quel moment, selon toi, une levée de fonds est-elle nécessaire? Parce que je crois que vous avez fait plusieurs levées de fonds. La dernière, c'était 2 millions d'euros avec Vitosha Venture Partners, un fonds bulgare, et MFG Invest. À quel moment tu t'es dit, il faut qu'on repasse en levée de fonds?
Alors... La première fois quand j'ai levé des fonds, c'était puisqu'il y avait tellement déjà de demandes sur la plateforme. Alors, je n'arrivais pas à gérer toute seule. Il fallait absolument pouvoir se permettre de recruter une équipe. Après, à quel moment c'est bien de lever des fonds? C'est vrai qu'on a envie depuis le début d'avoir ce support, c'est sûr. Mais honnêtement, maintenant que je regarde en arrière, je pense que... C'est mieux de ne pas lever des fonds trop tôt, puisque déjà, on est beaucoup plus créatif et on peut faire beaucoup de choses
sans
argent. Voilà. Ouais. C'est drôle, puisque quand on lève des fonds, d'un coup, tous les services deviennent plus chers.
Ah, ouais, ouais.
Les gens, ils sont beaucoup plus compréhensibles quand on n'a pas d'argent. Après, il faut savoir que ça prend énormément du temps. Donc, c'est un investissement de temps très, très important de la part du fondateur. Et au début de la vie d'une start-up, je pense qu'il y a des meilleures utilisations de ce temps-là. Il faut déjà prouver qu'il y a quelque chose, développer son produit, etc. Et dans tous les cas, je pense que si on est un fondateur pour la première fois, c'est rare qu'on va avoir des investisseurs très très tôt, sauf peut-être si on développe quelque chose qui est dans où on est vraiment expert
ou révolutionnaire dans le monde du business. OK. Voilà. J'entends. Tu as commencé à parler de tes équipes aussi. Forcément, tu as appris à manager sur le tard, sur le terrain. Comment ça se passe, le début du management? Il me semble même que toi, tu avais un management un peu horizontal, sans hiérarchie, inspiré un peu de ce monde anglo-saxon que tu as connu.
Oui, moi j'avais la chance que j'étais plus ou moins formée à manager des gens quand j'étais chez PwC à Londres, donc ils ont quand même des programmes assez structurés. Et au-delà de ça, je m'inspire énormément par des livres de management. J'écoute des livres de management,
oui,
des podcasts justement, des podcasts de management aussi justement. Et j'ai un coach depuis. À un certain moment qui m'aide justement à débloquer certaines situations puisque on n'a jamais trop d'expérience. Il y a toujours, on est en train d'apprendre comment gérer des gens en permanence, ce qui était une révélation pour moi quand j'ai commencé à gérer du monde chez Native Spaces, c'était le fait que, en fait, je me suis rendu compte que je ne savais pas trop gérer des équipes juniors, puisque à Londres, je gérais des consultants en stratégie, c'était un peu différent. Et là, mes équipes plus juniors, ils avaient besoin de beaucoup plus de patience, de plus de cadre. Et voilà, donc depuis, je me suis entourée avec des gens qui ont plus ce côté managériale. Par exemple, notre Head of Growth, Morgane Vatiès, elle nous a rejoint. Elle était manager des sales chez Just Eat ici à Paris. Et du coup, une fois qu'elle est arrivée dans l'entreprise, c'est elle qui a vraiment bien encadré les juniors. Et maintenant, ils se sentent beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus sereins. Voilà. Mais voilà, on est tout le temps. Même avec toutes les formations, les livres, etc., on est toujours en train de faire des tests et de faire des erreurs et de s'améliorer. Et je suppose que le plus important, c'est de rester authentique et sincère. Et c'est ça qui fait que les équipes, ils sont beaucoup plus... Ils ne sont pas moins exigeants, mais ils sont plus compréhensibles.
J'entends. Et si là, je me promène, j'arrive à Nice... Voilà, je sors de la gare, je prends ma petite voiture, taxi, etc. J'arrive chez Native Spaces et je demande à tes équipes en disant « Allez, comment Tania comme manager ?» Tu penses qu'ils diraient quoi, là, à l'heure actuelle?
Alors, du côté positif, ils vont peut-être dire que j'ai beaucoup d'énergie, qu'on rigole beaucoup au bureau, que j'ai beaucoup de passion et que je suis émotionnelle des fois. Du côté négatif, ils vont te dire que j'ai pas beaucoup de patience. Ils vont te dire que je pense à 10 choses à la fois et des fois je vais trop vite et donc ils sont très confus quand ils m'écoutent. Que j'ai plein d'idées et que je m'attends à beaucoup de résultats très rapidement. que des fois j'ai des attentes, très très haute de leur part, voilà, mais il y a les deux côtés, positif et négatif, j'imagine.
Bon, au moins c'est sincère de savoir un peu, je trouve que c'est intéressant aussi quand t'es manager de savoir un peu comment tes équipes peuvent te voir et comment elles peuvent te sentir et ta façon d'être. Et c'est important ce que tu dis avec les juniors, en fait tu manages pas pareil forcément des seniors plus que des juniors ou la génération Z qui arrive et qui a envie de travailler de manière différente, on va dire.
Oui.
Et je ne sais plus qui en avait parlé, mais c'est peut-être Thibault Louis qui en avait parlé sur LinkedIn, et il disait justement, en fait, la manière dont un dirigeant va traiter ses juniors, c'est un peu la manière dont un dirigeant va traiter le serveur au restaurant. Et c'est hyper important d'avoir toutes ces valeurs, même si tu vas trop vite. Tant que tu respectes tes équipes, c'est déjà hyper important.
Non, mais c'est clair. Pour moi, peu importe, même j'aime pas trop le mot junior, puisque en gros, après, c'est un peu la culture anglo-saxonne, mais aussi la culture des consultants, puisque quand on était manager, si, en effet, il fallait construire son équipe à chaque fois pour chaque projet. Et si on n'est pas un manager qui respecte ses équipes, les équipes ne vont pas vouloir travailler avec ce manager. Et après, on n'aura pas une équipe et on ne va pas pouvoir livrer un bon projet pour le client, etc. Donc, c'était ce côté-là. Mais pour moi, j'ai jamais, même des fois, j'ai du mal à accepter forcément à me rendre compte, puisque souvent c'est ça, ils me disent mais tu te rends compte de ta position, puisque c'est vrai que des fois on est tellement égal dans l'entreprise que j'ai du mal à me rendre compte du fait que j'ai quand même une position assez particulière par rapport aux autres. Voilà. C'est un grand défi à la fois aussi, puisque mon fils, il est plein d'énergie, un peu comme moi, un peu de patience. Voilà.
Et comment tu arrives à mener de front cette vie de famille et cette vie de CEO hyper investi, qui a envie de travailler, qui a envie d'avancer? Comment tu arrives à gérer tout ça, ta vie de famille, ta vie de couple? Enfin, on sait que c'est pas facile.
Alors, c'est difficile à te répondre, puisque moi, j'ai pas connu autre chose. Quand mon fils est né, quand il avait 3 mois, j'étais en train de lever mon premier levée de fonds. Donc, j'ai toujours mené un peu l'entreprise, donc l'entrepreneuriat avec ma vie familiale. Et ce qui est important peut-être à dire à d'autres femmes qui se demandent s'ils vont pouvoir réussir, je pense qu'il ne faut pas se dire que c'est un choix, puisqu'en gros, je ne sais pas si c'est plus complexe de avoir une vie de famille ou de ne pas l'avoir, puisque pour moi, c'est la vie de famille qui m'a aidée sur plusieurs choses dans l'entrepreneuriat. Le fait d'apprendre à gérer mon fils, je pense que m'a rendu beaucoup meilleure dans le management de mes équipes.
Okay.
Donc, je suis devenue plus patiente. Je suis plus capable aujourd'hui, grâce à la naissance de mon fils, à se détacher des problèmes émotionnellement, justement, et de les gérer de manière beaucoup plus efficace, sans beaucoup d'émotions, puisque la famille, c'est tellement important que tout autre problème devient, pas si grave.
Ouais, ouais, ok.
On est en mode problème-solution. Voilà, et c'est beaucoup plus efficace. Après, c'est vrai qu'on apprend d'être beaucoup plus organisé. Aujourd'hui, toute notre comex chez Native Spaces, c'est des gens par an. Et le CTO et la Head of Growth. Et je trouve qu'ils sont hyper organisés. Et je pense que c'est un peu comme on dit en Angleterre. Je ne sais pas si cette expression existe en français. Quand tu veux que quelque chose soit fait, donne-le à quelqu'un qui est occupé. C'est un peu comme ça.
Elle est pas mal, cette expression. Genre.
Voilà. Ouais, okay. Les gens qui sont busy, ils sont très bien organisés. Donc, ils sont capables de faire beaucoup de choses. Et aussi, il faut absolument ne pas oublier le fait que j'ai un partenaire de vie, donc mon mari, qui m'aide énormément. On a un réseau autour de nous qui nous aide énormément aussi. J'ai ma belle famille, etc. Il faut ne pas avoir peur à se faire aider un peu en permanence. Donc, mon fils est un peu élevé par le village. Et il adore.
Nice, c'est pas un village. Hein, on n'est pas dans un petit village bulgare.
C'est encore une traduction d'expression anglaise, mais oui, voilà, être élevé par
non, mais
le village.
Elle existe, on l'a même en italien, je crois qu'elle existe en italien aussi. Ouais.
Oui, et aussi, il faut savoir que, voilà, par exemple, moi et mon mari, on partage nos réseaux professionnels respectifs. Et je pense que aussi, j'aurais pas été capable à se lancer et à prendre un risque de telle ampleur si j'étais pas déjà en couple, si
bien
j'avais
entouré,
pas déjà, voilà, bien entouré.
Donc globalement, tu es en train de nous dire que c'est plus facile de lancer une boîte et de lever 2 millions qu'avoir un enfant.
Alors, je n'ai pas dit exactement ça, mais c'est deux défis très différents et je pense que les deux en même temps, c'est possible.
Tu t'es retrouvée des fois dans des moments où tu t'es dit ah, j'y arrive pas. Est-ce que ça t'arrive, je te demande pas forcément là aujourd'hui, la semaine dernière, mais sur tes 2-3 dernières années, est-ce qu'à un moment, des moments, tu t'es dit putain, j'y arrive pas, comment je fais?
Oui, ça m'arrive tout le temps. Donc, non, c'est clair, ça m'arrive assez souvent de me dire comment je vais faire, d'avoir des questions sur des sujets où même c'est difficile de trouver un expert qui peut te répondre à la question. Ce qui m'aide énormément, c'est de m'avoir bien entourée par des mentors sur les différents sujets. Aussi, les investisseurs, ça aide énormément puisqu'ils ont, ils ont tout intérêt de nous aider aujourd'hui. Donc, ça, c'est pas mal. L'équipe aussi. Voilà. Des fois, il y a des moments où vraiment on se... Des fois, il y a des vrais bas. En fait, il y a des hauts et des vrais bas un peu en permanence. C'est un vrai roller coaster.
On est sur un secteur, le luxe, le haut de gamme. Selon toi, est-ce que c'est un secteur qui connaît vraiment la crise?
Je pourrais pas forcément te dire puisque nous n'avons pas suffisamment d'historique post-Covid, puisque nous nous sommes vraiment lancés commercialement après la crise. Et parmi nos lieux, il n'y a pas que de luxe, il y a vraiment pour tout budget. Forcément, il y a un petit impact, mais dans notre cas, c'est difficile à voir cet impact puisqu'on est parti de zéro. Donc, ça veut dire que notre croissance est assez importante tous les mois, tous les ans. Donc, là, déjà, on fait 3 fois que l'année dernière. Donc, c'est difficile à connaître l'impact de la crise puisque on part de zéro et on connaît quand même une croissance assez importante.
Ce que tu rappelles dans la plupart des interviews où tu parles de célébrer les petites victoires, tu as commencé à en parler au tout début. C'est important pour toi de célébrer les petites victoires du quotidien ?
C'est primordial, puisque en fait, ça fait énorme partie de notre culture en entreprise, chez Native Spaces. On célèbre tous les anniversaires de chacun, toutes les milestones, les petites et les grandes réussites. Et je trouve que c'est hyper important, puisque dans la vie d'une start-up, il n'y a jamais des temps calmes. C'est drôle, puisque souvent, l'équipe elle nous dit, voilà, quand il sera un temps calme, on fera ça. Mais ça ne nous a jamais arrivé jusqu'à aujourd'hui d'avoir un temps calme, puisqu'on a énormément d'idées à mettre en place, énormément d'urgences à traiter, etc. Et c'est hyper important de prendre le temps de faire une pause, de se rendre compte de la progression qu'on a fait, de célébrer les moments importants et aussi, surtout, puisque entreprendre, c'est un marathon. En fait, c'est pas du tout un sprint. Il y a des petites sprints dans un marathon très long. Et il faut que les équipes soient capables à continuer aussi. Je pense que les moments de célébration, non seulement ça les rassure, puisqu'on a énormément de réussites, mais aussi on fait beaucoup d'erreurs tous les jours. Et ça les rassure, ça leur donne de la motivation à continuer et de prendre plaisir de ce voyage qui est le développement d'une start-up. Ouais. Puisque à la fin, de toute façon, il y aura toujours un objectif plus haut, plus important, un résultat plus haut à obtenir, peu importe où on est. À chaque fois,
ça monte toujours.
Ça monte toujours. Voilà, donc de toute façon, il faut bien prendre plaisir de ce voyage.
Mais ce qui est important aussi, c'est parce que souvent, quand on parle de victoire, on pense des victoires sportives. Tu vois, mais en fait, si on reste concentré sur les victoires sportives, dans une vie, on en a très peu. Tu vois, parce que si tu fais du foot, oui, bah, t'en as des petites victoires, mais tu gagnes pas des trophées tous les ans. Des marathons, t'en fais pas tous les 6 mois non plus. En fait, si tu te contentes, et ça m'avait assez ému, je l'avais lu il y a quelques temps, si tu te contentes que des grandes victoires dans ta vie, mais sur ton lit de mort, tu te dis, en fait, j'ai eu quoi dans ma vie? 3 victoires? 4? C'est sur 90 ans parfois de vie. Alors que si tu profites un peu plus des petites victoires, en fait, tu peux célébrer un peu plus souvent. Et à la fin de ta vie, tu te dis, bon, ok, j'ai pas eu que des grandes victoires, mais finalement, j'ai quand même kiffé. Et je me suis fait plaisir sur les petits moments importants de la vie. Et ce que tu disais, le fameux instant présent que tu parlais avec la danse, c'est un peu ça aussi qui est important.
Exactement. Prendre plaisir de chaque jour, de toutes les petites choses qu'on fait, de l'appel d'une mariée qui nous a dit qu'on a sauvé son mariage, ou alors, voilà, par exemple. Mais oui, de les petits plaisirs de chaque jour. Les gâteaux que nos collaborateurs ont préparés pour Andrea qui célébrait son anniversaire l'autre jour. Voilà. Donc honnêtement, peu importe si... Bon.
Ça serait bien si c'est une grande réussite.
Oui, on prend.
Peu importe si c'est une grande réussite ou pas, je pense que je serais contente de l'avoir fait.
Si jamais tu n'étais pas, enfin, si tu n'avais pas quitté la Bulgarie, tu sais ce que tu ferais à l'heure actuelle si tu n'étais pas partie à Londres, aux États-Unis?
Non. Honnêtement, ça n'a jamais été une option sur la table. Disons que très vite, je savais que j'avais envie de voir plus, de faire plus. Mes parents, en fait, jusqu'à il n'y a pas longtemps, ils n'avaient jamais eu un bien, même pas un appartement. Donc ça veut dire... Mais par contre, ils ont investi pour qu'on puisse aller visiter d'autres pays, pour qu'on puisse aller étudier en étranger, etc. Donc c'était... Cette exploration était toujours dans notre culture et ouais. Donc ça n'a jamais été une option en fait. Et aujourd'hui, je suis hyper contente de revenir puisque aujourd'hui, nous avons une filiale, donc une petite équipe en Bulgarie aussi.
Okay.
Je suis hyper contente d'investir justement dans mon pays aussi, de continuer à avoir ce lien-là, mais aussi de garder un pied ailleurs. Et dans tous les cas, aujourd'hui, je me sens plus comme un citoyen du monde que de bulgare, française, anglaise, je ne sais pas.
Ouais.
Puisque quand on revient, on n'est pas comme les autres. Quand
forcément.
On est là, on n'est pas comme les autres. Nulle part, on est comme les autres. Donc, un peu, on fait partie de ce groupe qui n'est pas forcément... qui n'appartient à aucun pays tellement fortement.
T'as finalement été programmé pour accomplir des choses dans ta vie. Comment tes parents te voient actuellement? Comment ta famille... Te voit en fait la façon dont tu as grandi, dont tu t'es construit, et aujourd'hui tu as l'air totalement épanoui. Comment ils le voient là?
Alors je pense qu'ils sont hyper fiers, bon, comme tous les parents, hein. ils sont plutôt fiers, et je pense que bon, ça, c'était un grand stress pour eux, le fait que j'avais abandonné mon super job à Londres qui me faisait voyager le monde où j'avais un énorme salaire et tout ça. C'était pas le choix évident pour mes parents, disons, mais maintenant ils ont compris pourquoi je l'ai fait, et là ils sont tellement fiers, ils portent les t-shirts Native Spaces même si personne en Bulgarie connaît ce nom, et même ça, je pense que ça a motivé mon père qui était pas fan de son travail depuis des années, mais c'était une génération qui change pas,
du
qui
coup,
prend pas de
ouais.
risques tellement, puisque quand même leur vie ou le contexte, il était beaucoup trop instable, et ça a motivé, ça a inspiré mon père aussi de quitter son travail, de se lancer tout seul aussi.
Wow.
Depuis 2 ans, donc moi je suis hyper fière de lui, voilà, aussi. Donc non, ils sont fiers, ils sont contents, ils nous suivent de près, ils aident autant qu'ils peuvent à leur échelle, voilà.
C'est marrant, les parents s'inquiètent tout le temps, peu importe l'âge qu'on a, sur ce qu'on fait. On peut démissionner, partir, ah mais comment tu vas faire, avec ça, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer.
Mais honnêtement, maintenant que je suis mère, je comprends complètement. En fait, je comprends, c'est comme une extension de nous. Voilà, c'est ça. Non, mais c'était ça le plus grand changement. C'était pas le fait qu'il faut s'occuper de quelqu'un d'autre, ou il faut faire un million de choses à la fois. C'était pas ça le grand changement. Le grand changement, c'était de passer de... je me préoccupe que de mes choses, de moi-même, à je suis tout le temps préoccupée de quelqu'un d'autre,
ouais.
Beaucoup plus que de moi-même, et tout devient secondaire. Donc c'est ça le grand changement en fait.
Dans ta vie, tu nous as parlé de pas mal d'appréhensions que tu as pu avoir tout au long de ton parcours. Et merci en tout cas pour toute la franchise que tu as eue. Il y a une appréhension que tu as aussi depuis... quelques années, c'est l'appréhension du français, parfois, ou sur lequel tu as encore ce syndrome de l'imposteur, où tu m'as même écrit en me disant « Oui, mais excuse-moi, je t'écris en anglais parce que je ne parle pas très bien le français. » Alors que pourtant, tu vois, tu le parles, le français. Comment tu le vis intérieurement, cette appréhension? Parce que nous, on a besoin de savoir pourquoi tu l'as, cette appréhension, véritablement, et comment tu arrives à essayer de surpasser cette appréhension.
Alors, comme je disais...
il y a cette histoire de se sentir jugé sur la manière dont je communique, puisque c'est normal, hein, la communication est tellement essentielle qu'on juge souvent les gens sur leur communication pour justement se rendre compte de leur valeur, leur expérience, etc. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi, puisque juste... J'aimerais bien pouvoir... Je manque encore beaucoup de vocabulaire et j'aimerais bien pouvoir... j'ai toujours plein de choses à dire, donc j'aimerais bien pouvoir les dire avec plus de jolis mots en français, comme j'aurais dit en anglais, par exemple. Il y a ça, mais je continue à prendre des cours de français. Pour tout dire, pour m'améliorer, je continue à prendre des cours de français. Bon, l'accent, je me suis... j'ai accepté que ça changera pas grand chose, mais
ça fait partie de ton caractère aussi, c'est normal. Oui, ça va avec qui tu es.
C'est ça. Donc c'est pour ça, c'est juste une question d'insécurité. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je parle beaucoup plus en français avec les gens qu'en anglais. Avant, vraiment, je commençais en anglais. Maintenant, je me rends compte que la plupart du monde parle. Que je parle mieux français que l'anglais.
Que nous, l'anglais.
Donc, autour de moi. Donc, finalement, c'est plus efficace en français et j'ai choisi l'efficacité. Et comme tu l'as bien compris, les choix que j'ai faits dans ma vie n'ont jamais été les choix les plus évidents qui vont me rendre à l'aise où je vais être dans ma zone de confort. Je suis quelqu'un qui cherche toujours. Voilà. À se déstabiliser. quand c'est trop stable, je suis mal à l'aise. Il faut trouver quelque chose d'autre. Voilà. Il faut trouver quelque chose à apprendre. Il faut trouver un challenge. Voilà.
Mais une question aussi dans ce que tu dis, d'assumer en fait qui on est véritablement. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu as fait tout au long de ta vie, c'est d'assumer véritablement qui tu étais. Ok, tu as envie d'avancer, tu as envie d'aller vite. Ok, je vais faire du sport de haut niveau. Ok, j'ai envie de créer. Je vais créer une boîte. Ok, j'ai envie de tenter l'expérience. Ouais, je quitte Londres et je vais à Nice. Bon, c'est plus sympa dans ce sens-là que l'inverse, en effet. Mais tu vois, on a l'impression que tu as réussi à t'assumer pleinement dans toute ta vie. Et ça fait du bien. Et c'est le type de profil, en tout cas, qu'on aime entendre, en tout cas au sein de ce podcast Double Dose. Et je te remercie, en tout cas, pour tout ce que tu nous as apporté. C'est, je pense, ton interview le plus long que tu as fait encore jusqu'à présent.
Je confirme, ouais. C'est le plus long. C'est le plus long, avec beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément préparées. Donc, j'espère que je n'ai pas fait énormément d'erreurs en français. Mais bon, j'ai au moins partagé ce que j'espère, ce qui pourrait être intéressant pour quelqu'un, je suppose.
Et on a redécouvert des expressions en plus, donc ça me va, tu vois.
Des traductions des expressions.
Ça, c'est le village qui s'occupe de la famille. Et puis, il y en avait une autre aussi.
Non, un enfant enlevé.
Élevé par le village.
Pas enlevé. Oui. Un enfant élevé par le village, oui, c'est ça.
Je comprends que le français, des fois, sur le vocabulaire, c'est compliqué. Tu vois qu'un des mots qui se ressemble comme ça. Promis, on préviendra l'Académie française de changer deux, trois petits mots.
Oui, c'est ça.
Merci beaucoup, Tania. Est-ce qu'il y a, pour conclure, peut-être un conseil ou une phrase que tu aimerais dire à la petite toi, qui avait 5 ans, qui a commencé la danse?
Alors, que rien n'est très grave et que rien n'est, comment dire, en fait aujourd'hui mon principe qui me guide c'est quoi le pire qui peut se passer, en fait c'est comme ça que je prends. Il faut tenter, il faut pas se dire que ce soit impossible, puisque de toute façon c'est quoi le pire qui peut se passer, donc il faut quelqu'un va nous dire non ou peut-être que voilà on va avoir un refus, peut-être que ça serait un petit échec, mais on saura qu'on a au moins tenté.
Alors, comme le dit si bien Tania, tenter, et puis au pire quoi?
C'est ça.
Merci beaucoup Tania, à très bientôt chers auditeurs, et on se laisse bon après-midi avec pourquoi pas un petit mot en bulgare qui dit à bientôt.
Dovijdane.
Dovijdane.